Allez, au boulot.
Au sein de l'entreprise, est-ce que ça veut dire que la souffrance au travail est en train de devenir un véritable problème en France ? Des prises de conscience.
Alors, on reçoit, comme tous les mois, l'association Souffrance au Travail, Pascal Collen. Comme ça qu'on prononce votre nom.
Oui.
Et dans nos locaux, et elle est vice-présidente de cette association, elle est aussi psychologue.
C'est ça.
Alors, on va parler depuis qu'on est avec vous, tous les mois, quand on vous reçoit, on a toujours un thème. Alors,
oui.
Le thème de cette petite émission, l'interview de 10 minutes, aujourd'hui, c'est le burn-out.
Oui, c'est ça. Je ne vais pas traiter ce sujet en entier parce que c'est énorme.
Il faut des heures.
Voilà, pour traiter les causes, par exemple, voilà, ça serait très long. Je voulais juste traiter une question pratique que peut-être certains d'entre vous se posent. Comment savoir si je suis en burn-out ? Ce terme est galvaudé. Dès qu'on est fatigué, on dit « je suis en burn-out ». Bon, c'est un peu excessif. En réalité, le burn-out a des caractéristiques bien connues maintenant que nous verrons ensemble. Pour démarrer, je voudrais dire qu'il faudrait examiner trois idées reçues. La première serait que le burn-out, ce n'est rien d'autre qu'une dépression nerveuse. C'est une idée fausse et on va voir ensemble oui. que voilà, les caractéristiques du burn-out sont différentes de
la simple dépression, si on peut dire.
Oui, jamais simple.
C'est jamais simple une dépression nerveuse. Mais enfin, il faut bien différencier entre la dépression et ce qu'on appelle le burn-out.
La deuxième idée reçue, c'est que le burn-out, c'est simplement un épuisement professionnel attribuable à une surcharge de travail ou à des rythmes intenables, autrement dit un surmenage.
Ou un surmenage qui ne serait pas si grave que ça,
ça
passera.
Exactement. La troisième idée reçue, c'est que le burn-out ne concerne que les personnes les plus fragiles.
Oui, on a cette idée aussi, on dit « Oh, il est en burn-out », mais c'est parce qu'en fait, psychologiquement, vous qui êtes psychologue, psychologiquement, il est faible, il n'est pas capable de faire face.
Voilà, et cette idée arrange bien les collègues de la personne malade et également
la direction
de l'entreprise. En réalité, le burn-out est bien plus que tout cela. Et il y a un terme que j'ai retenu d'après une interview de la sociologue Danielle Linhart, quand elle a, le 11 avril dernier, elle a été interviewée par le journal La Marseillaise.
D'accord.
Et elle a parlé d'un effondrement personnel. Et effectivement, le burn-out, c'est un effondrement personnel qui sera soit passager, soit de très longue durée.
Ça peut être un état grave.
Absolument.
Un état grave et qui peut perdurer, hein, qui peut durer.
Absolument.
Donc c'est à prendre très au sérieux.
Oui, parce que si vous voulez, l'état le plus grave, c'est j'ai envie de me suicider. Et ça n'est pas rare. Ça n'est pas rare.
C'est le stade, hélas, le pire. C'est-à-dire qu'on a pu constater dans certaines grandes entreprises, notamment, mais pas que dans les grandes entreprises, des suicides dus d'abord à une charge de travail importante, puis après, progressivement, ils ont glissé vers le burn-out, ils ont été complètement burn-out et incapables de se relever. Mmh. Et là, on arrive au drame.
Je voudrais dire aussi qu'on connaît des cas de chefs de petites entreprises, hein, petits
pas
entrepreneurs.
Pas forcément les grandes, c'est ce que je disais.
Qui peuvent connaître le burn-out parce que la marge de leur entreprise est finie par les submerger.
Ou même les artisans, ça peut arriver dans ce milieu-là. Vous savez, ils ont des commandes qui sont passées, ces commandes ne sont pas payées, ils disent comment je vais payer mon personnel. Et donc, même le petit chef d'entreprise peut être sujet à ça.
Et un domaine auquel on ne pense pas, c'est que les enfants scolarisés du primaire au secondaire, ainsi que les étudiants, connaissent le burn-out. Il y a un burn-out en milieu scolaire.
Oh ben on peut penser, vous savez, ces terribles prépas. les prépas, là, quand absolument. Les gens sont là, sont une pression terrible. Et du lundi matin au samedi midi, ils sont là à bosser comme des malades. Et hop, on recommence la semaine prochaine. Et on recommence. Et certains étudiants ne peuvent pas suivre ce rythme. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas faits pour ça, tout simplement, hein, que ces prépas...
Voilà, voilà.
Militaire, moi, j'appelle ça. Prépa militaire.
C'est ça. Donc, voyons ensemble quels sont les signes que vous devez surveiller si vous avez actuellement un gros malaise au travail. Alors, il est important de détecter ces signes précocement avant d'atteindre un point de non-retour qui conduira peut-être, hélas, à une incapacité définitive à retravailler.
C'est terrible, hein ?
Oui. Alors, ce que vous devez surveiller tout d'abord... C'est ce qu'on appelle la montée en puissance d'un stress au travail. Un stress qui, à force d'être quotidien, à force d'être entretenu par différents incidents au travail, va devenir chronique. Et il atteint depuis même les toutes petites tâches insignifiantes qu'on doit accomplir dans sa journée de travail, la moindre chose... fait monter une pression...
C'est ça, on s'en rend compte, en fait, quand on ne supporte plus. Hein, il y a ce côté... vous êtes là, et pourtant, c'est rien. Il y a une petite incident, et vous ne supportez pas. Et là, vous êtes sur la mauvaise pente, on peut dire.
Tout à fait. Alors, quand ce stress devient chronique, il s'exporte aussi à la maison, donc en famille, avec son conjoint, avec ses enfants. On continue d'être stressé. Et comme on est au début dans le déni du burn-out, ça fait partie de la maladie, on ne veut pas reconnaître qu'on est victime de quelque chose qui nous dépasse. Donc comme on est dans le déni, le corps se met à parler. On a des maux de ventre, on a des maux de dos.
Ce qui était psychique devient physique.
Voilà. Enfin, ça commence par les maux physiques.
Oui, c'est ça. Mais en fait, ce ne sont pas des maladies physiques en soi.
Tout à fait, ce sont des signes d'alerte. Et ensuite s'installe une peur. On a peur en permanence. Peur de mal faire, peur de ne pas y arriver.
Le manque de confiance en soi.
C'est ça. C'est ça. Et on va y venir. Donc cette peur permanente qui vous tenaille, évidemment, nuit à vos capacités de concentration, de mémoire. On se sent de moins en moins efficace, on oublie tout, on perd tout. On est désorganisé. Mais surtout, les gens reconnaissent le manque de concentration. Je n'arrive plus à faire sur mon ordinateur tout ce que je faisais il y a un mois, vous voyez. Donc, ça, c'est important.
Par contre, Pascal Collin, attention, vous savez, on n'a que 10 minutes. Donc, on arrive doucement vers la fin de cet entretien. D'accord. Mais maintenant, on a déjà bien quand même compris les signes.
Voilà. Je termine avec l'autodévalorisation.
Voilà.
Elle se met en place. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas à la hauteur.
Je suis nul.
Je suis moins bon que les autres. J'occupe un poste qui...
C'est trop important pour moi.
Et je ne suis pas qualifié. Voilà. On se dit des choses comme ça. Et quand on se dit ça, du coup, on se replie sur soi. On se met dans un isolement avec un sentiment de vide et de tristesse. Et c'est là qu'on voit apparaître le recours aux drogues, aux médicaments,
aux
tabac,
addictions,
à l'alcool.
Aux addictions de façon générale.
Pour tenir le coup,
on dit, tiens, on boit un petit verre pour se remonter, pour se donner la force d'aller au travail.
Voilà. Dans certaines professions, on connaît ces problèmes d'addiction. Et s'installe un état qu'on appelle anxio-dépressif et que le médecin constatera, on va en parler. Donc, dans cet état, la moindre évocation du travail produit une poussée d'angoisse.
Oui, vraiment.
Vraiment.
On n'a pas envie d'y aller. Quoi.
Voilà. Et en même temps, on rumine. On rumine des scènes professionnelles, qu'on n'aurait pas dû dire ça, on n'aurait pas dû faire cela. On se met à penser en boucle à certaines choses.
Ça tourne en rond dans la tête. Donc, on comprend bien à quel point c'est difficile. Par contre, je suis désolé, mais il va falloir qu'on termine.
Et
parce
que faire
c'est, que faire moi, je vais vous le dire. Il faut contacter Souffrance au travail.
pas seulement. Non, là, il faut soigner en même temps le corps et l'esprit, vous l'avez compris. Donc, il faut avoir recours au médecin. le médecin traitant ou le psychiatre sont habilités à donner des arrêts de travail, et c'est très important. Le psychiatre et le médecin traitant prescrivent aussi des médicaments psychotropes passer un cap. Le médecin du travail est à consulter également, mais lui ne peut pas faire d'arrêt de travail, il faut le savoir.
Oui, d'accord. Donc il faut aller sur le médecin traitant ou sur le psychiatre.
Voilà, exactement. Puis, pensez aux psychologues, pensez aux associations.
Écoutez, si vous venez tous les mois nous raconter ça, c'est aussi pour qu'on vous contacte.
Hein. Voilà.
Alors, toujours pareil, sur le site de Divergence, c'est tout à fait possible d'avoir ces informations. Je m'excuse de vous décourter un peu, mais c'est une question de radio, c'est les radios, c'est toujours très très précis. Donc là, on se revoit le mois prochain.
Entendu.
Et toujours pour évoquer un thème, ou alors des fois vous venez avec quelqu'un, comme ça vous arrive.
Hein, on peut venir à deux.
C'est bien aussi. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu.
Merci à vous.